Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour Adam Bachko, bienvenue dans les têtes chercheuses du Collimateur. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un de vos articles sur l'Afghanistan, qui est intitulé « Jugé en situation de guerre civile, les cours de justice taliban en Afghanistan entre 2001 et 2013 », qui est paru en 2013-2014 dans la revue Politics. Donc c'est un article sur votre terrain de thèse, qui est l'Afghanistan, dont vous êtes venu nous parler dans un épisode régulier du Collimateur. Je sais pas dans quel ordre on va relâcher les deux épisodes. Peut-être qu'on l'aura déjà diffusé avant cet article audio. Si c'est le cas, les auditeurs sauront que vous êtes très intéressés par les modalités de construction de l'État, et notamment par l'angle qu'est la justice en termes d'affirmation de l'État. Alors d'abord, dites-nous peut-être comment vous est venu le projet de cet article. C'est-à-dire, comment est-ce que c'était une commande? Est-ce que c'était une suggestion? Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes dit, voilà, cette partie-là de mon travail de thèse, ça en ferait un bon article, ça ferait un bon... Enfin, ça se ferait très bien au format article.
En fait, l'article est venu suite à une commande par deux chercheurs, Dominique Linhart et Cédric Moreau de Bellin, qui ont un projet qui s'appelait à l'époque Ni guerre ni paix, qui essayait de penser des dynamiques de paix dans la guerre et de guerre dans la paix, et qui m'ont proposé d'écrire un article sur les tribunaux que mettaient en place les talibans, et qui est donc mon sujet de thèse. Et cet article, plus qu'une partie de ma thèse, c'est la première formulation que j'ai faite de la question que je pose dans ma thèse. C'était la première fois que j'ai réussi à dire ce que c'est que la question que je pose quand je mène mon terrain en Afghanistan.
Alors, dedans, il y a une volonté très claire de réfléchir à la notion d'État, la manière dont elle se construit, mais surtout la manière dont elle s'incarne dans ses configurations pratiques sur le terrain, puisque, voilà, votre angle, c'est les tribunaux, enfin, en tout cas, la question de la justice et de la résolution des conflits comme modalité d'affirmation de l'État.
Tout à fait. Le paradoxe qui quelque part sous-tend cet article et ma recherche plus généralement, c'est comment dans un contexte où justement se faire reconnaître comme juge apparaît comme impensable. On est dans des guerres civiles, on est dans a priori ce qui nous apparaîtrait comme la situation non-droit par excellence.
Hein. On va dire, on est dans la période de summum, c'est la présence de période de présence militaire occidentale en Afghanistan entre 2001 et 2013. Et ce que vous étudiez, c'est quand même pas la rémanence, mais enfin si, c'est le compte. C'est le contre...
Oui, un contre-État.
C'est le contre-État, c'est le plan de coupe, quoi, par
oui,
rapport à ça.
Tout
quoi.
À fait.
Alors que les Occidentaux essayent de construire un État, ce que vous montrez, c'est l'autre État qui survit, quoi.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un contexte, paradoxalement, où, a priori, se faire reconnaître comme juge est particulièrement difficile, parce que comment on va considérer qu'un taliban, qui est une partie du conflit... peut être juge. Comment un juge taliban qui est autant juge que taliban peut-il être reconnu comme juge, hein? C'est toute la question que je pose dans cet article. C'est comment on parvient, alors même qu'on est un belligérant, alors même qu'on est plein de partialité par le fait même qu'on est engagé dans la guerre, à se faire reconnaître comme un arbitre, comme une autorité neutre. Hein, et toute la force du contre-État taliban, c'est mon argument, hein, c'est qu'à travers des modalités finalement assez classiques d'organisation, de bureaucratisation, d'institutionnalisation, les talibans vont parvenir à incarner l'État d'une manière bien plus efficace que les acteurs de l'intervention occidentale, à commencer par les Américains ou le régime de Kaboul.
Ouais, c'est presque la preuve sur le terrain, quoi. C'est-à-dire, les talibans font la preuve de l'efficacité de ce que tout le monde aspire, c'est-à-dire fournir le cadre de référence, fournir l'État, fournir la stabilité, fournir l'assurance aussi sur le long terme, parce que c'est ça le droit. Dire le droit, c'est assurer les gens d'une certaine sécurité, notamment quant à leurs biens. Et c'est ça que les talibans font plus efficacement, paradoxalement, que toutes les puissances occidentales et les moyens que ces puissances ont derrière.
Voilà, fondamentalement, si on veut comprendre pourquoi les talibans parviennent à s'imposer mieux comme l'État que les acteurs autour, c'est parce qu'ils arrivent mieux à répondre aussi à l'énorme incertitude juridique que produit une guerre. Enfin, il faudrait comprendre qu'une guerre civile, qu'un conflit armé comme celui qu'il y a en Afghanistan, plus qu'un moment de non-droit, plus qu'un moment où le droit s'applique pas, c'est un moment où il y a trop de droits, où il y a plusieurs droits. Hein, et c'est l'erreur qu'on fait souvent, on pense ces moments comme des moments de chaos, de désordre. Et c'est l'erreur, c'est vraiment des moments de trop plein d'autorité qui donnent des décisions juridiques, qui prennent des décisions, dont les décisions sont plus ou moins efficaces. Et c'est pas simplement trop à un moment donné, c'est en plus une succession, parce que bon, dans le contexte afghan où la guerre dure depuis 78, il faut imaginer qu'un village a vu une dizaine d'autorités juridiques se succéder, et donc la valeur...
Avec des corpus juridiques différents.
Tout à fait, et donc la valeur du titre de propriété dont vous héritez, il est très très incertain. Hein. Et donc l'autorité qui est capable de vous garantir votre titre de propriété, eh bien, elle a une possibilité de s'imposer stratégiquement extraordinaire.
Ouais, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est notamment là-dessus que vous vous centrez, c'est sur la question des titres de propriété qui est particulièrement centrale dans la société afghane, et c'est là-dessus que les talibans font preuve d'une efficacité, enfin, en tout cas d'une continuité.
Oui, fondamentalement, c'est là où on voit que les talibans, c'est d'abord un mouvement conservateur sur le plan social, c'est un mouvement qui cherche pas à redistribuer les ressources, qui cherche simplement à
contrairement à ce qu'on fait, par exemple, les soviétiques.
Les communistes, voilà, exactement. C'est un mouvement...
À la fin des années 70, au début des années 80.
Tout à fait. Quand on regarde les décisions juridiques, on voit ce qu'est l'idéologie des talibans en pratique. Et l'idéologie des talibans en pratique, c'est le rejet des modalités illégales d'accaparement foncière, et elles existent en Afghanistan, mais c'est pas du tout un rejet des inégalités. Leur principe central, c'est d'assurer que tout propriétaire peut se sentir tranquillement propriétaire de sa terre. Hein. Et donc, au contraire, c'est des gens qui ont plutôt tendance à reproduire les inégalités. Mais leur problème central, c'est de réduire l'incertitude juridique, d'assurer que toutes les personnes vont pouvoir profiter de le vrai propriétaire qui est jamais trouvable, parce qu'il n'y a jamais exactement un vrai propriétaire. Il y a des titres concurrents. On voit ce problème dans toutes les sociétés non cadastrées. En fait, dans la plupart du monde, les cadastres ne sont pas clairs. Déjà en France, on a des conflits autour des cadastres, mais il faut imaginer ce que ça représente dans une société comme l'Afghanistan, où avant même la guerre, on avait plusieurs modalités de définition de la propriété, et la guerre a amené une explosion des modalités de reconnaissance de cette propriété. Et bien les talibans, eux, vont se poser comme l'autorité qui décide et qui assure que le vrai propriétaire, il a son terrain.
Ouais, donc c'est ça. Donc en fait, c'est la sécurité.
Oui, c'est la sécurité.
Ils fournissent la sécurité à une société de petits propriétaires dont chacun cherche à assurer sa propriété.
Voilà, et si vous voulez, ce qui explique que le perdant ne se retourne pas contre les talibans, c'est justement que la conséquence de cette incertitude juridique, c'est que les gens s'arment les uns contre les autres, ont peur les uns des autres. Or, les talibans vont insister énormément sur la coercition comme modalité d'application de leurs décisions, de s'assurer par la violence. Hein, la justice talibane est extrêmement violente, et c'est paradoxalement une de ces modalités de légitimité, parce que en s'assurant par la violence que personne ne conteste la décision, elle rassure pas simplement les gagnants, elle rassure aussi les perdants qui cessent d'avoir peur de leurs voisins. Et c'est là où on comprend que dans un contexte aussi dramatique que le conflit armé afghan, la capacité à imposer des décisions, à se faire obéir, est un des éléments essentiels pour se faire reconnaître comme une autorité juridique.
Et c'est là que c'est marrant, ça me fait... Enfin... Ça fait apparaître la dimension vraiment féodale au sens médiéval du terme des talibans. Mais ce qui est un truc qui apparaît de temps en temps, parce qu'on entend les talibans ont fait allégeance à tel ou tel groupe a fait allégeance avec un vocabulaire très médiéval. Mais déjà dans la société médiévale, le premier droit du seigneur, ce qui fait que le seigneur est seigneur, c'est la capacité à rendre la justice. C'est comme ça que la société, c'est la modalité fondamentale d'affirmation du pouvoir politique.
Sauf que l'image médiévale est fausse, parce qu'en fait c'est extrêmement moderne. Ce qu'on voit chez les talibans et ce qu'on voit dans toute structuration d'État, c'est-à-dire qu'un État, une des fonctions essentielles de l'État qu'on tend à oublier, c'est la garantie de la propriété. Si quand vous achetez une maison et que vous allez voir un agent immobilier, quand vous vendez une maison, les agents immobiliers ont grosso modo une vision similaire du prix, 10 000 euros de moins, 10 000 euros de plus, mais grosso modo, ils ont une idée pour définir le prix de manière assez simple, c'est parce que derrière, vous avez un État qui indirectement garantit la valeur de vos biens, la propriété de vos biens, vous assure que quand vous êtes dans votre appartement ou votre maison, c'est votre appartement ou votre maison, et ça vaut à peu près tant plutôt que tant. Hein. Il y a toute une série de mécanismes qui assurent ça. Ce que font les talibans, c'est se mettre dans la place de l'État, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils garantissent la propriété, ils garantissent qui est propriétaire, et ce que ça a comme conséquence légale.
Hein. Et du coup, ça garantit la richesse et la valeur.
Et du coup, ça garantit la richesse et la valeur. Et du coup, ça les met en position d'être l'État.
Et alors du coup, la question, c'est comment est-ce que vous avez pu voir ça? Parce que voilà, juste, c'est les talibans en période de guerre civile. Vous, en plus, vous êtes français. Soit dit en passant, la France est tordue à la coalition otanienne qui, à l'époque, luttait contre les talibans. Donc, comment est-ce qu'on accède à un terrain comme ça?
Alors, moi, j'ai fonctionné en travaillant, en fonctionnant par des gens qui étaient des interlocuteurs privilégiés, qui ont accepté de me prendre dans leur réseau à eux, de me faire rencontrer des gens de leur famille qui étaient pris dans des conflits avec les talibans. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Paradoxalement, travailler sur les conflits.
Vous parlez les langues locales ou pas?
J'ai des bases de Dari, mais j'ai toujours travaillé avec un interprète parce que de toute façon, j'étais dans des zones où on parlait.
Oui, de toute façon, c'est pas comme si vous pouviez y aller tout seul et discuter directement.
Et plus généralement, le problème que j'avais en face de moi. C'est que quand j'essayais de parler des talibans, j'avais en face de moi évidemment une inquiétude, un refus, parce que j'étais pris pour un espion. Par contre, quand je parlais des conflits fonciers, ben là, c'est les gens eux-mêmes qui me parlaient des talibans et qui m'ont parlé avec moult détails, avec une grande envie de décrire. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai découvert le sujet de la justice talibane. C'est qu'en fait, moi, j'arrivais en parlant des talibans, les gens refusaient de me parler, mais par contre, eux me parlaient de leurs conflits fonciers. Quand j'ai fini par comprendre que c'était essentiel, j'ai commencé à poser des questions là-dessus. Et c'est eux qui sont revenus aux talibans et aux juges talibans comme modalité essentielle de résolution de leurs propres conflits, y compris quand eux, parce que mes premiers interlocuteurs étaient plutôt des opposants politiques aux talibans, y compris quand, pour des opposants politiques aux talibans, on fait appel aux juges talibans. C'est là que j'ai compris l'importance, quelque part, de la question. Quand des gens qui sont politiquement extrêmement opposés aux talibans font appel à un juge taliban, vous avez en face de vous une vraie légitimité du juge. On le reconnaît bien comme juge, puisqu'on le reconnaît comme juge, en dépit du fait qu'on ne reconnaît pas la légitimité politique du mouvement. C'est toute la force du mouvement. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fonctionné en me concentrant d'abord sur une première province, la Kunar, puis ensuite en élargissant, et donc j'ai travaillé sur 4-5 provinces. Et ensuite, j'ai pu donner un questionnaire à des gens, j'ai pu rencontrer des juges talibans qui ont accepté de me parler, et ensuite qui ont accepté j'ai pu donner un questionnaire à des gens qui l'ont fait auprès de juges talibans, ce qui m'a permis de vérifier que les juges talibans à qui moi je parlais avaient bien les mêmes pratiques que d'autres juges talibans dans le reste du pays.
Et alors, ça se passait comment de parler avec des juges talibans?
C'est relativement.
Je veux dire, ça se passait bien. Eux, ça les intéressait de parler de leur métier.
Tout à
leur...
fait. Parce que moi, j'arrivais avec des questions extrêmement techniques. Mon inquiétude à l'époque, c'était, je me retrouvais dans un champ que je maîtrisais peu, qui est celui du droit. J'ai pas de formation juridique, donc j'ai appris sur le tas. Et en particulier, pas de droit islamique, donc j'ai vraiment appris sur le tas. Et donc moi, les questions.
Et puis le droit islamique en soi, c'est 22 galaxies interconnectées.
Absolument. Enfin, voilà.
De toute façon, il faudrait toute une vie pour s'y connaître.
Voilà. Parce qu'en plus, encore plus, je connaissais pas le droit islamique qu'appliquaient les talibans et l'interprétation des talibans du droit islamique. Donc c'était, je me suis beaucoup concentré sur des questions sur leur vision du droit, et donc moi j'avais des entretiens qui étaient sur leur technique, sur leur modalité d'application de la jurisprudence, sur les cas qu'ils ont eu, et en fait je parlais à des professionnels qui aimaient parler de leur profession, et donc j'avais en face de moi des gens très dignes, très habillés soit dans une mosquée, soit dans le salon d'accueil d'une maison, qui me parlaient de leur technique juridique avec un certain entrain, parce que c'est leur vie en fait. Leur engagement.
Et du coup, vos conclusions, c'est que, c'est la technicité du droit taliban et sa capacité à le faire respecter qui a fourni, disons, le premier terreau, en tout cas le substrat de la présence étatique des talibans dans un certain nombre de régions.
Oui, en fait, la capacité des talibans à produire du droit vient d'une chose très simple, c'est qu'en fait, c'est un mouvement qui s'est construit dans les madrassas de la frontière afghano-pakistanaise. Or, les madrassas, c'est des instituts de production de théologiens et de juristes et en droit islamique. Et c'est parce que les talibans avaient accès à un vivier de juristes, eux-mêmes sont en fait des juristes. C'est un mouvement de juristes. Et comme c'est un mouvement de juristes, c'est un mouvement qui avait une sensibilité à la nécessité de mettre en place des tribunaux, mais en plus, à la fois la capacité de construire un système bureaucratique de tribunaux et la légitimité dans une société où le droit islamique est considéré comme légitime. Il y a une grande légitimité du droit islamique en Afghanistan. Le régime prétend appliquer un droit islamique. Les modalités informelles de résolution se légitiment toujours par l'islam. Les talibans prétendent appliquer un droit islamique. Donc tout le monde, il y a un consensus en Afghanistan sur la légitimité du droit islamique dans une écrasante majorité de la population. Et donc les talibans sont un mouvement qui a une aptitude particulière à le mettre par le simple fait qu'en fait ils se sont constitués d'instituts de formation de juristes en droit islamique.
Ok. Et alors, donc c'est un article qui a maintenant 7 ans. Mm-hmm. Bon, vous en avez fait une thèse.
Je suis en train d'en faire un livre.
Oui, j'imagine. Mais alors, du coup. Non, mais la question, c'est comment ça a évolué, puisque les talibans n'ont pas cessé de prendre du pouvoir. C'est-à-dire, maintenant, c'est plus une présence interstitielle qui s'affirme par le
dans
droit.
Dans les campagnes, c'est aujourd'hui le principal système de justice.
Alors du coup, c'est pas s'il fallait refaire l'article, mais disons, quelles pourraient être les perspectives de prolongement de cet article? Comment est-ce qu'il ouvre ou pas des pistes, et comment est-ce qu'on pourrait les prolonger aujourd'hui? Alors, vous n'allez pas refaire deux fois la même thèse, mais enfin, voilà, comment est-ce qu'on pourrait prolonger ces questionnements-là?
Moi, je prolonge ce travail-là aujourd'hui. Alors, j'avais une autre piste il y a quelques années qui était d'essayer de faire une comparaison, et donc j'ai un peu mené ce travail-là en Syrie, d'essayer de comprendre les différences. La Syrie étant un laboratoire extraordinaire, parce que vous aviez l'insurrection liée aux mobilisations de 2011, mais vous aviez aussi le mouvement kurde, le PKK PYD qui a construit ses propres institutions, l'État islamique a produit d'autres institutions. Enfin, vous aviez toute une série d'institutions juridiques qui permettaient de voir...
Je précise d'ailleurs que vous avez fait un livre de votre travail sur la Syrie qui s'appelle « Syrie, anatomie d'une guerre civile » avec Gilles de Ronsoro et Arthur Kenney. Enfin, c'est intéressant aussi parce que c'est aussi le parcours d'un spécialiste, d'un internationaliste, quoi. Mais d'un politiste internationaliste, c'est la volonté de, mine de rien, de s'adapter à plusieurs terrains différents.
Tout à fait, et de comparer, parce que comparer, ça vous permet de dénaturaliser, de désexotiser des choses qui, a priori, si j'avais uniquement passé mon temps en Afghanistan, je vous aurais dit, ah, les talibans, ils font du droit comme ça, parce qu'en fait, c'est comme ça le droit en Afghanistan. L'avantage, quand on va voir ailleurs, c'est qu'on retrouve des choses
et
qui sont assez
similaires.
Et c'est
un truc dont on parle par ailleurs dans le podcast, c'est le grand danger d'orientaliser l'Afghanistan. Exactement. En Afghanistan. L'ami mémorial de l'Afghanistan, et voilà, et ça permet de décentrer le regard,
c'est
de comparer.
C'est toute la force de la comparaison, c'est vraiment son utilité première, c'est qu'elle vous amène à voir que dans des situations extrêmement différentes comme le Mali, l'Afghanistan et la Syrie, voire la Colombie, vous avez des processus qui sont similaires, vous avez évidemment des processus qui sont différents, et qui vous montrent bien que les acteurs sont pris face à des problèmes qui dépassent la culture locale, qui ont évidemment une histoire spécifique à chaque fois, c'est toujours singulier, mais pour autant ça répond à des problèmes qui sont comparables.
Hein. Oui, et puis c'est pas que des problèmes de droit islamique, c'est des problèmes de droit et de certitude.
Et c'est typiquement ce que je raconte sur l'incertitude juridique, sur le trop de droit, c'est quelque chose que j'ai retrouvé de conflit armé de manière quasiment systématique. Le deuxième prolongement, qui est celui qu'en fait je suis aujourd'hui, c'est que je suis en train de passer de l'autre côté. Je suis en train de m'intéresser aux programmes mis en place par les Occidentaux dans ce genre de contexte, dans le domaine juridique, parce que...
C'est-à-dire comment ils ont essayé de faire et pourquoi ça a planté.
Voilà, parce que quelque part, les tribunaux talibans ne sont compréhensibles que de manière contextuelle. Ils réussissent parce que les Occidentaux plantent. Ils sont légitimes à ce point parce qu'en face, les tribunaux mis en place par le régime et les différentes instances coutumières inventées par l'armée américaine ont eu des effets désastreux.
Oui, parce que ça, on va le dire, c'est aussi toute une partie de l'article. Vous commencez déjà à le détailler dans cet article. C'est cette idée qu'en fait, les Américains, précisément parce qu'ils connaissent mal le terrain, en fait, se retrouvent à se faire complètement instrumentaliser dans à peu près tous les conflits communautaires et hyper locaux. Et qu'en fait, c'est pour ça que leur droit est pas reconnu, parce qu'ils se plantent complètement et ils se font balader, quoi.
Tout à fait. Or, cette manière de se faire balader, bien aujourd'hui, je commence à travailler sur le Mali et je la retrouve. Et donc, il y a quelque chose ici qui ne s'explique pas uniquement par les interactions particulières à l'Afghanistan. C'est tout l'intérêt de comparer.
C'est pas que le fait que l'Afghan est farouche.
Voilà, c'est pas que l'Afghan est farouche. C'est pas que les Américains, dans ce contexte-là, ont oublié toute rationalité. C'est au contraire parce qu'il y a des séries de logiques internationales, de circulation, d'entreprises, de concepts qui amènent nos États à faire les mêmes erreurs dans des endroits très différents, avec des conséquences qui sont toujours dramatiques, mais pas toujours de la même manière.
Alors là, c'est très intéressant parce que vous ouvrez une toute petite porte, mais qui, j'espère, va s'ouvrir très grand bientôt. C'est le fait, c'est la privatisation du droit. Et c'est le fait que, j'espère que vous allez en faire des bouquins, mais c'est le fait que, paradoxalement, ce ne sont pas les États qui essayent d'affirmer des régimes juridiques, c'est qu'on fait appel à des entreprises qui essayent de mettre en place des systèmes juridiques. Et c'est-à-dire faire appel au privé pour instaurer le truc le plus régalien qui soit, c'est-à-dire le droit, c'est une ironie. Enfin, évidemment que ça ne marche pas souvent.
Il y a quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, à comprendre que quand les États-Unis s'impliquent de manière très forte dans le secteur juridique à partir de 2008, ils font appel à une entreprise qui n'a jamais eu d'expérience dans le droit, qui est exactement la même entreprise auxquelles font aujourd'hui appel les Américains et les Canadiens au Mali pour la reconstruction du système judiciaire formel et informel malien.
Ouais, c'est
la même entreprise.
Mais ce qui est aussi la logique du Conseil qui est fascinante, c'est aussi du coup une externalisation de la responsabilité dans une certaine mesure. Ça permet que cet échec-là soit pas l'échec des pays en eux-mêmes, soit l'échec d'une entreprise.
Enfin, sauf que c'est les pays en eux-mêmes qui en subissent à la fois le coût et les conséquences. Mais
c'est, les pays locaux.
Mais y compris les nôtres, parce que c'est l'argent public. Hein. Il faut toujours rappeler ici que c'est un argent public privatisé. Hein. C'est-à-dire que c'est l'argent de nos impôts qui est mis dans des contrats de consultance aboutissant dans des entreprises qui produisent des politiques publiques absolument désastreuses. Et c'est effectivement ces circulations-là qui m'intéressent, parce que pour vous donner un exemple très précis de ce sur quoi je travaille aujourd'hui, qui est vraiment dans le prolongement des questions que je posais là, l'idée qu'il faut fonctionner par un droit local coutumier ou informel est quelque chose qui a été essentiel en Afghanistan. Hein, on parlait tout le temps de Shura et Jirga, qui seraient des instances coutumières et qui en fait étaient souvent des réinventions d'institutions par les armées ou les armées occidentales ou les différents sous-traitants des acteurs de l'intervention. Eh bien, on retrouve la même chose au Mali, on retrouve la même chose dans énormément d'autres pays. Et en fait, on retrouve un mouvement beaucoup plus large qui commence dès les années 80 et qu'on prétend être une écoute du local, alors qu'en fait, c'est l'application du passage à la médiation qui se développe aux États-Unis dans le domaine des mariages dans les années 80, aboutissant au développement, à l'apparition de nombreux avocats qui ensuite vont se recycler dans les institutions internationales et promouvoir des modalités de médiation, mais en leur donnant une couleur locale, en parlant de justice informelle, de justice locale. Hein. Et c'est un phénomène qu'on a vu émerger dans les années 90 et qui a ensuite pris une importance centrale dans les guerres, quand on s'est dit que la contre-insurrection signifiait qu'il fallait avoir une politique de gouvernance. Et aujourd'hui, vous allez voir partout des gens vous dire que le centre dans ce conflit-là, ce qu'il faut faire, c'est une justice locale, une justice coutumière, une justice informelle. Hein. Et il y a ici des circulations extraordinaires.
C'est-à-dire, c'est l'Occident, ou en tout cas ces pays-là occidentaux, qui projettent sur des pays locaux, enfin des pays en situation de conflit, leur propre espèce de conception juridique, qui perçoivent comme des modalités juridiques fondamentales, c'est-à-dire la conciliation, la médiation, le fait qu'on négocie le droit, que ça ne se passe pas par le juge, ça passe par les avocats et par des arbitrations, enfin des accords.
C'est ça, exactement.
Et du coup, on projette ce vers quoi notre droit évolue sur cette espèce de toile blanche que sont des pays en situation de conflit.
Tout à fait, en prétendant en prendre en compte des normes qui seraient singulières, mais en fait en appliquant des modalités qui s'internationalisent de notre propre droit.
Très bien, merci beaucoup Adam Bashko. Alors je rappelle que le titre de l'article, donc jugé en situation de guerre civile, les cours de justice talibans en Afghanistan, paru en 2014 dans la très bonne revue Politics, et qui du coup doit être disponible sur Cairn, comme le sont les articles de Politics.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.